Good morning, Captain.
Bonjour à tous. Un petit message rapide en intro pour vous dire que un nouveau Patreonneur nous a rejoint, la personne de Gilles. Gilles est un ancien client, un ancien collègue, un copain que je connais depuis une vingtaine d'années maintenant et qui m'a fait le plaisir de rejoindre les Patreonneurs parce qu'il fait beaucoup de bagnoles et qu'il en a marre d'entendre des conneries à la radio. Parallèlement à ça, je voulais vous dire qu'il y a une très très belle réédition à un prix assez modique de James Brown Live at the Apollo en vinyle que même à la FNAC on trouve dans les 20 balles. Et pour finir, je voulais vous dire que j'ai joué avec une intelligence artificielle qui crée des chansons dès l'instant où on lui donne des ordres. Et le résultat n'est pas incroyable, mais quand même assez intéressant. Je lui ai demandé de faire une chanson générique pour mon podcast. Bon, le résultat ne vaut pas que je l'utilise régulièrement, mais c'était quand même assez rigolo à faire. J'imagine que vous n'avez aucune envie de l'écouter.
Si, si, s'il te plaît, Captain, Captain.
Bon, d'accord, je vous la mets, mais c'est la dernière fois. Après, on travaille.
Let me tell you about a man, the greatest in the land. He's got a voice smooth as whiskey, a mind like quicksand. He spins tales on his mic, captivating one and all. With every word he speaks, you can't help but fall. Oh, Captain Dillingy Fool, he's got the podcast blues. He'll take you on a journey, leave you begging for more news. With every episode, he'll make you laugh and cry. Captain Dillingy Fool, he's the podcasting guy. He's got stories to tell and wisdom to share. He's the king of the airwaves. He's got the flair. His voice cuts deep like a bluesy guitar. Captain Dillingy, he's the true podcast star.
Well, good morning to you.
1965 est directement sous l'influence de l'intersection de trois mouvements musicaux différents, chacun d'entre eux étant essentiel. L'influence des Beatles, et dans une moindre mesure des autres groupes de Merseybeat, l'influence de Bob Dylan et du mouvement folk protestataire, et les groupes de guitare R&B britanniques qui commencent à ramener aux États-Unis leur réinterprétation du son de Chess Records, qu'on appellera plus tard le British Blues Boom. Mais bien sûr, alors que ces groupes à guitare influençaient tout le monde, ils étaient également influencés eux-mêmes par l'essor de la soul et en particulier par la Motown et les groupes de la Motown. Ces groupes ont été parmi les rares groupes américains qui ont réussi à continuer à avoir du succès pendant la British Invasion. En effet, 1965 a été un pic créatif et commercial pour le label, tout comme pour les groupes à guitare blanc. Aujourd'hui, nous allons donc nous pencher sur les Supremes, sur la carrière du seul groupe noir à avoir sérieusement défié les Beatles pour dominer les hit-parades dans les années 60, et sur le début des rivalités dans le groupe qui ont fini par les faire tomber. Nous allons examiner I Hear a Symphony des Supremes.
Good morning, Captain. Well, good morning to you.
Mené par le Capitaine Dillingy, un mélomane de mauvaise foi qui partage sa vie avec le Sergeant Pepper, une femelle bulldog français pétomane, le podcast Un dernier disque avant la fin du monde s'applique à remettre en perspective des disques, des chansons, des artistes. Le Capitaine Dillingy n'hésite pas à mélanger classic rock et succès pop en évitant de répondre aux questions trop impliquantes telles que « Danny Briand l'est-il vraiment ?»« Johnny Mitchell est-elle la fille cachée de Johnny Hallyday et Eddie Mitchell ?» Le blues a-t-il été inventé par les Blancs? Les Ramones ont-ils nettoyé des cheminées? Patti Smith aime-t-elle Morrissey? Et qui a eu cette idée folle, un jour, d'inventer l'école? Bonne écoute!
Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
Dans l'épisode précédent, il y avait déjà des tensions dans le groupe. Plus particulièrement, il y avait la tension entre Florence Ballard et Diana Ross. Ballard s'était toujours considérée comme la chanteuse principale du groupe, et presque tous ceux qui connaissaient le groupe à l'époque s'accordaient à dire que Ballard était la meilleure chanteuse. Mais Berry Gordy, le propriétaire de Motown, pensait que Ross était le membre du groupe qui avait un réel potentiel de star et insistait pour que ce soit elle, la chanteuse principale sur tous les singles des Supremes. Au début, cela n'a pas eu trop d'importance. Après tout, peu importe qui est le chanteur principal sur les disques, ils obtiennent les énormes succès dont ils ont toujours rêvé. Mais cela conduit inévitablement à des frictions au sein du groupe. Et à la fin 1964, au moins, tout le monde était sur la même longueur d'onde. Berry Gordy, en particulier, était ravi du succès continu du groupe. Il avait été le seul groupe, autre que les Beatles ou Bobby Vinton, à avoir plus d'un numéro 1 dans les charts pop en 1964. Et à la fin de l'année, ils avaient sorti leur troisième album, Come See About Me. Come See About Me est en fait sorti seulement un mois après Baby Love, avant même que ce dernier n'ait atteint le sommet des charts. Mais cela semble être une idée ridicule de sortir un autre single si proche de celui-ci. Et il est sorti si tôt pour s'assurer que les Supremes auraient un autre hit avec Baby Love, car un Sound Alike était déjà sorti sur One Records avant même la sortie du single des Supremes. Une jeune fille de 14 ans, Nella Dodds, avait décidé qu'elle pouvait chanter un peu comme Diana Ross. Et comme les Supremes étaient le plus grand groupe féminin du pays à ce moment-là, elle avait une chance de devenir elle-même une star. Elle a auditionné pour One Records en chantant l'intégralité du premier album des Supremes, et One Records a décidé qu'elle ressemblait suffisamment à Ross pour tenter de sortir un single avec elle. Ils ont choisi Come See About Me, qui avait été publié en tant que titre de l'album, et ont sorti ce single. La version de Dodds a été enregistrée pour ressembler à la version des Supremes et elle était si similaire à cette dernière qu'il est en fait assez facile de faire le lien entre les deux disques. On peut entendre les raccords même si les deux disques sont spectaculairement similaires. Ce n'est pas la seule fois qu'une production Holland, Dozier Holland est copiée en bloc. Nous en entendrons probablement d'autres exemples, un peu moins flagrants, plus tard dans cet épisode. Lorsque le single de Dodds commence à monter dans les charts, Berry Gordy est furieux. Si le disque est assez bon pour être un hit single, son label allait l'avoir. Et c'est ainsi que la version des Supremes de Come See About Me fut publiée en urgence à l'arrache. Elle est devenue numéro 1 et Nella Dodds est retournée dans l'obscurité. Pauvre gamine. Le fait que le groupe ait eu trois succès numéro un d'affilée a focalisé toute l'attention de tous. Et Gordy a tenu une réunion avec Holland, Dozier et Holland et il leur a dit qu'à partir de ce moment-là, The Supremes devait être la première priorité numéro un de la société. Il devait laisser tomber tout ce qu'il faisait et se concentrer sur les hits des Supremes pendant que les Supremes vivaient leur période de succès. Il fallait battre le fer quand il était chaud. Et c'est ainsi qu'ils ont fait. En janvier 65, ils ont enregistré l'album qui allait contenir le 4e numéro 1 consécutif des Supremes, Stop in the Name of Love. L'histoire de la conception de Stop in the Name of Love nous en dit long sur le genre de vie que menaient les gens de la Motown, qui avaient tous du succès et gagnaient beaucoup d'argent. De la manière dont Lamont Dozier raconte l'histoire, son mariage s'était effondré et il couchait avec de multiples femmes, dont certaines pensaient bien sûr être les seules. Dozier se rendait régulièrement dans un motel près de Hitsville pour ses rendez-vous, et un jour, alors qu'il était là avec une de ses femmes, une autre l'a retrouvé. La femme avec laquelle il s'était enfui, et Dozier a essayé de s'excuser, prétendant qu'il était juste très fatigué au travail et qu'il avait réservé une chambre d'hôtel pour se reposer afin de ne pas avoir beaucoup de chemin à faire sur le chemin du retour. Et sa petite amie n'a pas cru un mot de ce mensonge plutôt évident et a commencé à lui jeter des objets à la figure. Dozier s'est mis à lui crier d'arrêter et puis a fini par déguiser la phrase « Arrête au nom de la loi ». Stop in the name of the law, en criant Stop in the name of love. Immédiatement dans cette phrase la base d'une chanson, et son élan d'inspiration amuse la femme qui se met à rire. Cela a désamorcé totalement la situation et a conduit à un disque à succès. En effet, Dozier n'est pas le seul dont les expériences font partie des paroles de la chanson. Tous les trois, Holland, Dozier et Holland, avaient des vies amoureuses, on va dire, complexes, chaotiques, et traversaient la rupture de leur premier mariage. Eddie Holland a déclaré qu'il s'était servi de ses propres expériences à cet égard pour écrire les paroles de cette chanson. Les trois hommes avaient des liaisons avec plusieurs femmes, mais deux de ces liaisons étaient importantes dans leur vie professionnelle. Brian Holland sortait avec Diana Ross, tandis que Lamont Dozier fréquentait Mary Wilson. Selon Eddie Holland, Florence semblait penser que cela signifiait que les autres membres de leur trio respectif devaient également se mettre en couple. Mais Holland ne pensait pas qu'il devait s'impliquer, étant donné la fragilité mentale de Florence et sa propre débauche. Lamont et Brian se séparèrent plus tard de leurs partenaires respectifs des Supremes, mais heureusement pour la musique, tout le monde était assez professionnel pour pouvoir continuer à travailler ensemble. Après Stop in the Name of Love vient Back in Your Arms Again, ce qui fait 5 numéro 1 consécutifs pour la combinaison des Supremes et de Holland Dozier Holland. En plus de cela, Holland Dozier Holland s'occupe de faire des hits pour les Four Tops, dont nous entendrons bientôt parler, pour les Isley Brothers, et d'écrire également des chansons totalement inhabituelles pour d'autres artistes comme Marvin Gaye. Pour mettre cela en perspective, à ce moment-là, le seul artiste à avoir eu 5 numéros 1 d'affilée dans les charts américains, c'était Elvis Presley. Il l'avait fait 2 fois. Les Beatles étaient sur le point d'atteindre leur 5e succès, mais ils finiraient par atteindre 6 numéros 1 d'affilée, mais ils en avaient 11 au Royaume-Uni, et beaucoup plus de singles des Beatles étaient sortis aux États-Unis qu'au Royaume-Uni, de sorte qu'il y avait plus d'occasions de briser la série. C'est dans ce contexte que se trouvaient les Supremes. Il est important de souligner l'importance des Supremes, de la Motown et de Roland Dozier Holland en 1965. Cette année-là, 27 singles ont été classés numéro 1 au Billboard, et 6 d'entre eux provenaient de la Motown, contre 5 des Beatles et 2 des Rolling Stones. Sur ces 6 singles numéro 1 de la Motown, 5 étaient produits par Roland Dozier Holland et 4 étaient des Supremes. Bien sûr, les numéro 1 ne sont pas les seules mesures du succès de l'industrie musicale, mais bon, c'est quand même là que le pognon est, et vous savez bien que le pognon, c'est la seule chose qui guide l'industrie musicale. Selon cette mesure, les Supremes étaient donc plus grandes que n'importe qui d'autre, à l'exception des Beatles. Mais cela entraînait un certain mécontentement parmi les autres groupes de la Motown. On leur disait qu'une marée montante soulèverait tous les bateaux, mais de leur point de vue, tous ceux qui n'étaient pas des Supremes étaient ignorés. À moins qu'ils ne s'appellent bien sûr Smokey Robinson ou Marvin Gaye. Les Vandellas, par exemple, pensaient que des disques comme Dancing in the Streets, qui s'était classé 2e dans les charts, auraient pu facilement se classer 1er s'ils avaient bénéficié du même type de soutien et de promotion que bénéficiaient les Supremes. Pour eux, cela a été particulièrement évident lors de la première tournée britannique de la Motortown Review en mars 1965. Alors que les différents groupes Motown étaient en tournée au Royaume-Uni, l'occasion s'est présentée de faire une émission spéciale pour Granada TV, présentée par Dusty Springfield, qui était la force motrice de l'émission spéciale. Springfield était particulièrement admiratif de Martha and the Vandellas et a obtenu que Martha chante en duo avec elle sur son propre tube « Wishing and Hoping ». Bien que tous les groupes de la tournée, les Vandellas, Stevie Wonder, The Miracles, The Temptations, aient eu à un moment donné leur moment de gloire dans l'émission, les Supremes ont semblé dominer avec plus de chansons que n'importe lequel des autres groupes. C'est en partie une question de bon sens. La Motown commençait à peine à être représentée au Royaume-Uni et dans la mesure où elle l'était, les Supremes étaient pratiquement les seuls artistes de la Motown à avoir fait une quelconque impression sur la conscience publique à ce moment-là. Et c'est aussi parce que Berry Gordy était de plus en plus épris de Diana Ross et qu'ils ont finalement consommé leur relation à Paris à la fin de la tournée. Il est important de noter que dans tous les livres consacrés au groupe ou à la Motown, l'histoire est toujours décrite comme « Diana Ross, cette intrigante, a utilisé toutes ses ruses et ses charmes féminins pour séduire le pauvre Berry Gordy qui n'a pu que succomber à ses charmes ». C'est une façon de voir les choses. Une autre façon de voir les choses est que Berry Gordy était un homme marié de 35 ans qui couchait avec une de ses employées, qui devait avoir environ 21 ans à l'époque, et qui était son employée depuis plusieurs années. Je ne mentionnerai rien de tout cela si je le pouvais, parce que la rubrique People ne m'intéresse pas plus que ça, et je méprise la nature People de la plupart des écrits sur la musique. Si ce n'est qu'il est impossible de lire quoi que ce soit sur les Supremes sans avoir une vision de la carrière du groupe à partir du moment où Ross utilise sa sexualité pour manipuler Gordy afin de satisfaire sa propre ambition. Je pense qu'il ne fait aucun doute que Ross était ambitieuse, et pour tout dire, je n'aime pas beaucoup l'être humain, la personne. Mais je pense que la plupart des récits à son sujet sont clairement ancrés dans la misogynie et dans une profonde incompréhension de la dynamique du pouvoir dans sa relation avec Gordy. Il ne faut aucun doute que Gordy considérait les Supremes comme le groupe le plus important de la Motown, et qu'il considérait Diana Ross comme la partie la plus importante des Supremes. Les décisions prises en faveur de Diana Ross n'ont pas toujours été prises dans l'intérêt de ses collègues, c'est évident. Par exemple, à cette époque, la mode était aux femmes avec des courbes plutôt qu'aux femmes minces. Ross était extrêmement mince. Les tenues du groupe étaient rembourrées. Ce n'était pas un problème pour Mary, qui avait ses propres problèmes de manque de courbes, mais pour Florence, qui était plus en chair que les deux autres, c'était humiliant parce que cela la faisait paraître encore plus grosse qu'elle ne l'était réellement. Et il n'était pas question d'enlever le rembourrage de ses vêtements. Les décisions étaient prises sur la base de ce qui rendait Diana plus belle. Bien sûr, les modes changent, et avec l'ascension du top model Twiggy, un look plus émacié est soudain devenu plus populaire, de sorte que le groupe a pu abandonner le rembourrage. Mais Florence restait toujours celle qui n'avait pas l'air à la mode. Après la popularité de Twiggy, il y a eu un passage de l'émission où Ross disait « Thin is in », la minceur est à la mode. Et Florence ajoutait « But fat is where it's at ». Et son ajout est devenu une partie de la routine. Après la série de 5 singles numéro 1 des Supremes, on aurait pu croire qu'elles étaient invulnérables, mais en septembre 65, Nothing But Heartaches est sorti et il n'a atteint que la 11e place. Pour n'importe quel autre groupe, ce serait un grand succès. Mais pour un groupe qui avait eu 5 succès numéro 1 d'affilée, ça a été considéré comme un échec. Et ça a été traité comme tel, même s'il s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. Mary Gordy a envoyé un mémo à toute l'équipe créative de la Motown disant « Nous ne sortirons rien de moins que des produits classés parmi les 10 premiers, quel que soit l'artiste. Et parce que l'acceptable mondiale des Supremes est plus grande que celle des autres artistes, nous ne sortirons pour elle que des disques classés parmi les premiers. » Bien sûr, c'était plus facile à dire qu'à faire, et tous les auteurs, compositeurs et producteurs ne voulaient produire que des disques numéro 1, vous vous en doutez après tout. Mais c'est un symptôme des attitudes qui se manifestaient à la Motown à ce moment-là. Un succès numéro 11 pour un groupe qui 2 ans plus tôt était surnommé « The No-Hit Supreme » était désormais considéré comme un échec à sanctionner, tandis que les grands succès devaient être considérés comme la norme. Mais c'est aussi un hommage au succès de Holland, Dozier et Holland à ce moment-là que le single suivant des Supremes soit, une fois de plus, un autre numéro 1. L'inspiration pour I Hear a Symphony est venue du fait que Dozier pensait que les personnages des films avaient souvent des motifs musicaux sur la bande-son et qu'il serait ridicule que les gens dans la vraie vie se promènent avec leurs propres accompagnements musicaux. C'est super marrant comme idée. Mais il se peut aussi que le trio d'auteurs ait eu une autre idée en tête. En août, un peu plus d'un mois avant l'enregistrement de I Hear a Symphony, un groupe de filles appelé The Toys avait sorti un single intitulé A Lover's Concerto. Every part of me, I- Cette chanson était basée sur un morceau de musique généralement attribué à tort à Bach, mais en réalité du compositeur baroque Christian Petzold, et avait été écrit par Sandy Linzer et Denny Randall, deux auteurs qui écrivaient habituellement pour les Four Seasons. Le style d'ailleurs est très similaire à celui des Holland, Dozier et Holland. Linzer et Randall ont même fait un petit clin d'œil aux Supremes dans la chanson. Comparez l'intro du disque des Toys avec l'intro de Stop in the Name of Love. Vous voyez ce que je veux dire? Le disque des Toys a atteint la deuxième place des charts. Pas un numéro 1, mais mieux que le disque plus récent des Supremes. Il est donc possible que Holland, Dozier et Holland aient également pensé à l'album des Toys lorsqu'ils ont conçu leur nouvel album. D'autant plus qu'il contenait un petit clin d'œil à leur propre travail. Et ce qui est étrange à propos de cette section, c'est qu'elle ne fait pas du tout partie intégrante de l'album des Toys. Elle est juste là, je pense, en clin d'œil pour tous ceux qui l'écoutent. Holland, Dozier et Holland connaissaient certainement l'existence de l'album des Toys. Ils ont donc demandé aux Supremes d'en faire une reprise pour l'album I Hear a Symphony. Cet album contenait également la version des Supremes de Yesterday des Beatles. Un autre succès qui avait, bien sûr, fait référence à la musique classique, avec son accompagnement par un quatuor à cordes. Un seul tube faisait référence à la musique classique, ça c'est un coup de chance, mais deux, bah c'est un modèle. Et quelles que soient les affirmations ultérieures des auteurs sur l'inspiration, il est raisonnable de penser qu'ils ont au moins prêté une oreille attentive à ce modèle. Les paroles de I Hear a Symphony ont été écrites dans l'urgence. À l'origine, le groupe avait prévu de sortir une chanson intitulé « Mother Dear » comme prochain single. Mais Brian Holland et Lamont Dozier ont eu l'idée de la piste et du titre « I Hear a Symphony » et ils ont su qu'il s'agirait d'une chanson gagnante. Il y a cependant un problème. Le single doit sortir relativement vite et les Supremes se rendent au Royaume-Uni deux jours plus tard. Une fois la piste instrumentale en boîte, Brian Holland téléphone à son frère pour le réveiller et lui dire qu'ils ont besoin de paroles pour le jour d'après. Et en fait, Holland était déjà un peu épuisé ce jour-là. Il venait de travailler sur Roadrunner de Junior Walker and the All-Stars, qui devait faire suite à leur premier succès, Shotgun. Du moins, Holland dit que c'est sur ce quoi il travaillait, bien sûr, bien que l'album soit sorti 5 mois plus tard. Mais la Motown retardait souvent la sortie d'albums de groupes mineurs. Roadrunner n'est pas un morceau normal pour Holland, Dozier, Holland. Il a été difficile à écrire. Et en plus, ils ont découvert que Walker ne pouvait pas jouer la partie de saxophone dans les mêmes tonalités qu'il pouvait chanter la chanson. Ils ont donc dû modifier la vitesse de la piste afin d'obtenir les deux parties. Holland avait eu une journée épuisante et venait de s'endormir lorsque le téléphone a sonné. Brian Holland a fait envoyer une copie du backing track à Eddie au milieu de la nuit et Eddie est resté éveillé toute la nuit pour écrire les paroles qu'il a finalement terminées en studio pendant qu'il enseignait la chanson à Diana Ross. You've given me a true love and every day love for a feeling that's so new, so inviting, so exciting. Whenever you're near, I hear a symphony, a tender melody, pulling me closer, closer to your arms. Then suddenly, so divine, till I Comme l'enregistrement devait se faire dans l'urgence, les Supremes étaient à Londres lorsque le mixage a été finalisé. Tout comme Berry Gordy, qui dirigeait normalement les réunions de contrôle qualité de la Motown, réunions au cours desquelles les cadres et les producteurs vérifiaient tous les travaux en cours pour s'assurer qu'ils répondaient aux normes de l'entreprise. Normalement, si Gordy n'était pas en ville, Brian Holland prenait en charge la réunion. Mais un nouveau single de Supremes était suffisamment important pour que Gordy passe un coup de fil international et écoute à travers du téléphone l'enregistrement. Gordy insiste sur le fait que la voix est trop haute dans le mixage, mais Brian s'y oppose. Et Gordy finit par accepter de sortir le disque tel quel, malgré quelques réserves. Il reconnaîtra qu'il s'est trompé lorsque l'album deviendra numéro 1. Ce n'est pas le début d'une nouvelle série de numéro 1, mais les 8 singles suivants se classent tous dans le top 10. Et le groupe obtient 6 numéro 1, dont une série de 4 à la fin de l'année 66, au début de l'année 67. Il y a aussi d'autres disques, des singles de Noël, qui ne sont généralement pas comptabilisés comme de vrais singles, parce que bon, les disques de Noël sont placés dans leur propre classement, et des efforts promotionnels comme « Things are changing for the better ». Il s'agit d'une chanson que Brian Wilson et Mike Love des Beach Boys avaient écrite à l'origine pour les Ronettes, sous le titre « Don't hurt my little sister », mais bien que Spector ait enregistré une piste d'accompagnement, la chanson n'avait pas été jugée digne d'intérêt et les Ronettes, pour que les Ronettes y ajoutent leur voix. Et les Beach Boys avaient enregistré leur propre version en tant que piste d'album. Un an plus tard, l'Advertising Council voulait une chanson d'information publique pour promouvoir le Civil Rights Act de 1964 et le Voting Rights Act de 1965, deux lois historiques qui, pour la première fois, rendaient illégale la discrimination à l'encontre des Noirs. Il se tourne vers Spector pour qu'il trouve quelque chose, et Spector, ne voulant pas gâcher un succès pour ce type de promotion, c'est vous dire à quel point il soutenait la cause noire, trouve de nouvelles paroles pour la piste d'accompagnement inutilisée en utilisant différents slogans souhaités par l'Advertising Council. Spector demande à son assistant, Jimmy Ray Opel, de terminer la piste et trois versions furent montées avec des voix différentes sur la même piste. Ray Opel a produit une version avec les Blossoms au chant, une autre a été interprétée avec le groupe pop blanc Jay and the Americans, au secours. Et enfin, Motown a sorti une version avec les Supremes chantant sur le morceau de Spector. Ce n'est pas le meilleur morceau jamais enregistré, mais c'est la seule collaboration entre les trois plus grands faiseurs de hits américains du début des années 60, les Beach Boys, des gens extrêmement talentueux, Spector, une sous-merde, et les Supremes. Même s'ils n'ont pas réellement travaillé ensemble sur ce morceau, et donc « Things are changing for the better » est intéressant en tant que capsule de la musique pop américaine en 1965.
Girls, have you got the kind of man everyone looks up to? Well, if you don't, listen, I'll tell you what to do. Get your man, take him by the hand and bring him here to me. And I'm going to tell you about equal opportunity. There was a time when the world was fickle. Hard to succeed, but times have changed now, and school and training is all you really need. It doesn't matter who you may be, everyone's equal with the same opportunity. Yes, things are changing.
mais Gordy avait des projets pour les Supremes, qui impliquaient qu'elles ne soient plus simplement des stars de la pop. Et le titre « I Hear a Symphony » s'accordait bien avec les projets de Gordy. Comme Sam Cooke avant elle, il voulait qu'elle s'oriente vers le marché plus lucratif de la classe moyenne blanche. Et comme Sam Cooke, cela signifiait jouer au Copacabana. Nous avons déjà un peu parlé du Copacabana ou du Copa, comme on l'appelait universellement à l'époque, dans l'épisode « A Change is Gonna Come ». Mais il est difficile de comprendre aujourd'hui à quel point ce lieu était essentiel et important. C'était une boîte de nuit de New York, contrôlée par la mafia, et bien qu'il ne s'agisse que d'une boîte de nuit et non d'une salle de très grande capacité, le fait d'y jouer en tête d'affiche était considéré comme un signe qu'un groupe avait réussi à s'imposer et à faire partie de l'élite. Si vous pouviez être à la tête d'affiche du Copacabana au début des années 60, vous n'étiez plus un groupe de pop éphémère qui risquait de disparaître, mais vous étiez au même niveau que Tony Bennett, Sammy Davis, Dean Martin, Martin & Lewis, Sinatra, etc. Bien sûr, tout ce monde du show business a largement disparu aujourd'hui et l'industrie du divertissement connaissait au début des années 60, des changements massifs qui allaient bientôt rendre le fait qu'un artiste ait été la tête d'affiche du Copa aussi peu pertinent pour ses perspectives d'avenir que l'endroit où il était allé à l'école. Mais personne, à l'époque, ne le savait. En grande partie, grâce à des labels comme Motown, ces changements allaient se faire et être durables plutôt que de simples effets de mode. Gordy a donc décidé que son groupe phare serait à la tête du Copa. Même s'il a dû accepter un accord qui signifiait que, pour leur résidence initiale de 3 semaines, les membres du groupe ne gagneraient que $60 par spectacle, chacun avant les frais. Et ils allaient faire un spectacle super classe. Oui, ils allaient inclure quelques tubes, mais la plupart des chansons seraient des choses comme « Somewhere », la chanson de West Side Story, la chanson de Barbara Streisand « People », qui serait la seule voix principale de Florence pendant le spectacle, puisque personne d'autre qu'elle n'aurait pu la chanter. La chanson de Guy Lombardo, Enjoy Yourself, It's Later Than You Think, et surtout Rockabye Your Baby with a Dixie Melody.
Rockabye Your Baby with a Dixie Melody. Ooh, when you croon a tune from the heart of Dixie. Just hang that cradle, mummy, right on that Mason Dixie line, and swing it from Virginia to Tennessee with all the love that's in ya. Weep no more, my lady, won't you sing that song for me? Sing it slow, just as though you had me on your knee. A million baby kisses I'll deliver the minute they sing that Swanee River. Rock-a-bye, you rock-a-bye baby with a Dixie melody.
Le reste du répertoire était constitué de chansons de spectacle, d'une version non mixte de The Girl from Ipanema, baptisée The Boy from Ipanema, d'une parodie de King of the Road de Roger Miller, intitulée Queen of the House, et d'un pot-pourri de succès de Sam Cooke. À l'exception des morceaux de Cooke et des brefs passages de leur propre numéro, la setlist était entièrement conçue pour la clientèle du Copa qui se confondait à peine avec le public de la Motown. La résidence du Copa fut un triomphe et permit aux Supremes d'y faire des apparitions régulières pendant les 7 années qui suivent. Mais cela coûta très cher aux membres du groupe. Ross était tellement stressé qu'elle a perdu du poids alors qu'elle était déjà très maigre, premier signe de l'anorexie dont elle souffrira pendant de nombreuses années. Pendant ce temps, Florence a dû manquer une grande partie des répétitions car elle est tombée gravement malade avec une mauvaise grippe, bien qu'elle se soit rétablie suffisamment pour participer à la soirée d'ouverture. Alors que Berry Gordy travaillait depuis des années à la réalisation de ce projet, il n'aurait pas pu tomber plus mal. Sa sœur aînée, Lucy, est décédée subitement d'une hémorragie cérébrale peu de temps avant la résidence et ses funérailles ont eu lieu le matin même de la soirée d'ouverture. La soirée d'ouverture s'est déroulée exactement comme Gordy l'avait prévu, à l'exception d'un ad-lib pendant la chanson « You're nobody till somebody loves you » après que Ross ait chanté la ligne « But gold won't bring you happiness ». Florence a interposé une ligne de plaisanterie. « Now, wait a minute, honey. Je ne suis pas au courant de tout ça. Le public a adoré son ad-lib. Sammy Davis Jr., qui était dans le public, a crié « All right, girl, tu dis tellement bien les choses !» Et la réplique est devenue une partie intégrante du spectacle. Ainsi qu'un passage moins amusant, où Florence mentionnait « Little old me » et Ross répondait sarcastiquement « Little » en référence à son poids. Mais même si cela fonctionnait, Gordy était furieux, en partie parce qu'il était de mauvaise humeur après les funérailles de sa sœur, en partie parce qu'il s'agissait d'une déviation par rapport à la performance soigneusement programmée, et en partie parce que c'était un moment sous les projecteurs pour quelqu'un d'autre que Diana Ross. En guise de représailles, quelques jours plus tard, il a demandé à Harvey Fuqua de dire au groupe qu'il supprimait People, la seule voix lead de Florence. Puis environ une semaine plus tard, People a été réintégré au set, mais avec Ross au chant. Et c'était pas terrible. Mary Wilson avait également demandé à avoir sa propre chanson lead dans le set, mais Gordy l'avait regardé tristement et lui avait dit « Mary, tu ne sais pas chanter ». Florence est dévastée. Elle buvait déjà trop, mais la situation s'est aggravée après l'engagement au Copa. Même si le groupe n'a jamais vraiment été aussi proche que beaucoup d'autres groupes, ils ont tous essayé de créer un lien les uns avec les autres, et même en déménageant dans la même rue. Mais à présent, cette proximité physique n'était plus qu'une occasion supplémentaire pour les femmes de s'engueuler et de noter les allées et venues des unes et des autres vers la maison de disques et de faire des commentaires sarcastiques à ce sujet. Ballard est rapidement considéré comme un boulet par les dirigeants de la Motown, et même l'existence des Supremes commence à être perçue comme un simple obstacle à la carrière de Diana Ross. Au lieu d'être considérée pour ce qu'elle est, un groupe au succès fulgurant et pas seulement une chanteuse principale et ses choristes. Florence n'a pas duré très longtemps dans le groupe, et si nous nous penchons à nouveau sur leur cas un jour, nous ne parlerons plus des Supremes, mais de Diana Ross and the Supremes.
You're nobody till somebody loves you. You're nobody till somebody cares. You may be king, you may possess the world and all its gold, but gold won't bring you happiness when you're growing old. The world is still the same, you'll never change it. As sure as stars shine above, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love, or you're nobody till somebody.
Note de bas de page. Pour les informations relatives à la Motown dans cet épisode et dans d'autres, j'ai utilisé les ressources suivantes. Where Did Our Love Go? The Rise and Fall of the Motown Sound de Nelson George. To Be Loved de Berry Gordy. Woman of Motown and a Rally Story de Susan Whitefall. I Hear a Symphony, Motown and Crossover R&B de G. Andrew Florey. The Motown Encyclopedia de Graham Betts. How Sweet It Is de Lamont Dozier et Scott B. Bomar. Come and Get These Memories de Brian et Heidi Holland. Motown Junkies, le blog rarement mis à jour qui examine jusqu'à aujourd'hui les 694 premiers titres publiés par la Motown. Girls Group de John Clemente. La biographie des Supremes de Mark Rybowski dont j'ai parlé dans le premier épisode. Il existe un coffret sur tout ce que vous pouvez désirer des Supremes, mais aujourd'hui, il n'est trouvable que d'occasion, et sous forme physique, il doit être à un prix incroyable si vous trouvez quelqu'un qui veut bien le vendre, mais il n'est pas très cher sous forme de MP3. Il s'agit d'un bon substitut économique. Mais il ne contient pas « Stop in the name of love », ce qui est très curieux.